Pour démystifier un petit peu le CAC 40, qu'est-ce que nous apprend cette étude? Qu'en 2018, les entreprises du CAC 40 ont créé 373 milliards d'euros pour la collectivité.
Comment ça veut dire pour la collectivité, c'est-à-dire
création de valeur de 373 milliards répartie de la façon suivante. 71% ont été versés en salaire aux salariés. 71%. 19%, 72 milliards, ont été versés à l'État sous forme d'impôts. Et seulement, entre guillemets, 10% a été versé aux actionnaires. Ça représente 36 milliards pour les entreprises du CAC 40. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que les salaires, déjà, sont 9 fois plus élevés que les dividendes et que la part allouée en impôts.
Non, mais c'est la masse salariale et le patron du CAC 40, c'est pas les, on parle pas des mêmes volumes.
Mais contrairement à ce qui a pu être véhiculé avant, il n'y a pas une distorsion du capital par rapport au travail. Et je terminerai juste sur une chose, c'est effectivement, il y a des profils d'actionnaires qui sont justement vautours et qui sont très néfastes pour les entreprises. Ça s'appelle les short sellers. C'est quoi? C'est des entreprises en fait qui parient contre leur propre, des actionnaires pardon, qui parient contre leur propre entreprise en vendant en fait à découvert à une date. Voilà, ils font de la spéculation. Ouais. Eux, effectivement, c'est un comportement qui est très néfaste. Vous avez d'autres types d'actionnaires, les actionnaires activistes, qui eux justement s'inscrivent dans le long terme. Et en général, la littérature académique donc sérieuse dessus qui a été produite, qui montre que là où des actionnaires activistes sont présents dans une entreprise, la RSE est plus respectée, les salaires sont plus élevés.
C'est quoi la RSE?
C'est la responsabilité sociale des entreprises. En fait, c'est tout ce qui englobe la responsabilité environnementale, sociale et sociétale de l'entreprise. Et les salaires sont plus élevés. Donc ne mélangeons pas tous les types d'actionnaires. Il y a des actionnaires effectivement prédateurs, mais il y a des actionnaires vertueux. Et ce serait dommage que les uns soient, on va dire, vilipendés à cause des autres.
Christophe Rameau, que répondez-vous à cette volonté de nuancer les choses?
Comment dire? Tout d'abord, il faut toujours nuancer les choses.
Oui.
Mais
oui,
tout d'abord, sur la part des salaires et des profits dans la valeur ajoutée, comment dire? Je suis pas d'accord avec les données, mais c'est pas
vous
ça.
C'est
que
avec les chiffres de l'INSEE.
Non, mais c'est pas. Si, je suis d'accord avec les chiffres de l'INSEE. Non, c'est pas ça. C'est pour remettre en perspective. Il y a eu une très forte baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. En France en particulier, tout s'est joué en 4 ans.
Quatre dernières années?
Non, 84-88. Il y a eu une chute de la part des salaires, vous voyez, c'était sous la gauche, de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Et ensuite, on est resté à ce niveau relativement bas, d'accord, historiquement, 2-3 points en dessous de celui des 30 Glorieuses, jusqu'à la crise de 2008. En 2008, ça a remonté un peu la part des salaires, mais pas parce que les salaires ont augmenté. C'est parce que le gâteau s'est effondré à cause de la crise du capitalisme financiarisé. Bon, voilà, on en est là. Mais ce qui est surtout important, c'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce régime d'austérité salariale, ben, il joue y compris contre les entreprises, il joue y compris finalement contre la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on vit dans les sociétés salariales, le débouché pour les entreprises, c'est les salaires. Quand je dis salaire, le salaire net que touchent les salariés, mais aussi les salaires socialisés, les retraites notamment. Et donc si vous comprimez les salaires, la masse salariale, ben, vous comprimez les débouchés. Et donc ça joue contre les entreprises et finalement ça peut jouer y compris contre... Alors après il faut distinguer entre entreprise et entreprise. Vous avez d'un côté, parce que dans les ratios globaux que vous donnez, c'est une moyenne, vous avez d'un côté des PME qui sont écrasées, qui sont en situation de sous-traitance par des grands groupes, qui eux sont sous le joug d'un véritable capitalisme, d'un capitalisme prédateur. Alors je termine sur un point. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Quand on crée une entreprise, c'est quoi? Ben, on achète des machines, des locaux, on investit, on embauche de la main-d'œuvre. On ne fait pas ça pour revendre ça dans la nanoseconde. Vous avez bien compris. Or, une action, aujourd'hui, avec ce capitalisme financiarisé qu'on a cessé de réguler, de contrôler, eh bien, il est tout à fait légitime de vendre une action dans la nanoseconde si vous jugez que les autres vont vendre ou d'en acheter si vous jugez que les autres vont acheter. C'est ça la rationalité spéculative, qui est une rationalité de court terme par opposition à la logique d'entreprise qui doit être nécessairement partenariale. Une entreprise, c'est pas que des actionnaires,
alors,
ce sont des salariés. Et c'est ça qu'il faut réhabiliter.
Justement, on va évoquer des travaux, des réformes autour de la notion de gouvernance des entreprises. Ça vient des États-Unis, Nadia?
Oui, un manifeste effectivement qui a fait beaucoup de bruit qui vient des États-Unis. Ça s'est passé le 19 août dernier. 181 dirigeants de très 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 grandes entreprises américaines ont publié donc ce texte dans lequel ils expriment un nouveau mantra. Ils écrivent noir sur blanc que l'objectif d'une entreprise ne doit plus être de générer uniquement du profit pour les actionnaires, mais de prendre en compte, je les cite, toutes les parties prenantes, les investisseurs, les employés, les communautés, les fournisseurs et les clients. Ces patrons sont regroupés dans une association ô combien puissante qui s'appelle le Business Roundtable, qui comprend notamment les dirigeants d'IBM ou encore d'Amazon et de Boeing, et de nombreuses banques également. C'est surtout, je parlais d'association, mais c'est surtout un lobby qui a déjà prouvé son influence sur les politiques publiques américaines. C'est en partie à eux qu'on doit la création d'une agence de protection des consommateurs, mais ce sont aussi eux qui ont bloqué une loi qui visait à limiter les salaires des patrons l'occurrence, c'était sous Clinton. Et c'est une déclaration qui a fait du bruit, donc je le disais, qui a été scrutée, analysée, perçue par certains comme un embryon de changement de gouvernance, perçue par d'autres comme une coquille vide, parce que le texte est très, très lyrique, mais il a été assorti d'aucune mesure concrète. Aucun patron, par exemple, a proposé de limiter son propre salaire. Oui, et on pourrait en dire autant de la loi Pacte en France, qui a demandé il y a quelques mois aux entreprises de se doter d'une raison d'être et de l'inscrire dans ses statuts. On sait que Veolia ou SNCF l'a fait, par exemple Christine Kerdelan. Une fois qu'on a eu ce débat quasi philosophique sur la valeur d'une entreprise, comment est-ce qu'on la partage, si c'est le vœu de ces grands patrons?
Alors, c'est vrai que c'est la solution. C'est mieux partager la valeur. Et effectivement, la taxation des dividendes en France ne serait pas une solution, puisque dans ce cas-là, le capital irait s'investir ailleurs. Donc il faut trouver d'autres solutions qui partent des entreprises elles-mêmes. Mais regardez chez Bouygues ou chez Vinci. Chez Bouygues, 20% du capital est entre les mains des salariés. Comme ça, quand les dividendes augmentent, eh bien, les salariés aussi voient augmenter leur rémunération, mais en tout cas leur richesse. Chez Vinci, c'est un peu la même chose. C'est 10%, je crois.
Ça, ce sont des entreprises qui l'ont fait d'eux-mêmes.
Elles l'ont fait d'elles-mêmes. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut leur imposer? C'est autre chose. Mais effectivement, moi, je vois cette année, un retournement, ce serait vraiment beaucoup dire, mais dans les exigences de ce qu'on appelle sustainability, c'est-à-dire une espèce de responsabilité vis-à-vis de l'environnement, mais aussi vis-à-vis des salariés, on voit qu'il y a une évolution dans les entreprises du CAC 40, parce que sinon, les jeunes n'ont plus envie d'aller travailler dans ces entreprises qui ne se préoccupent pas des salariés, qui ne se préoccupent pas de l'environnement et qui veulent... ne veulent pas leur donner, enfin, il n'y a pas de sens dans le travail qu'ils trouvent dans ces entreprises. Donc, elles sont obligées de faire des efforts si elles veulent garder et ces nouveaux futurs salariés pour leur image et aussi des clients.
Pour leur pérennité aussi.
Et Christophe Rameau, si on considère que finalement les actionnaires échouent à représenter les intérêts de tout le monde dans les décisions des entreprises, comment est-ce qu'on contrebalance leur pouvoir? Est-ce que c'est par la présence de syndicats dans les conseils d'administration? Est-ce que tout le monde doit devenir actionnaire? Est-ce que c'est la participation salariale? C'est quoi les options, entre guillemets, pour contrebalancer ce poids?
Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, quand on parle d'actionnaire, il faut savoir de quoi on parle. Hein, parce qu'on a l'image du petit actionnaire, mais les petits actionnaires, c'est à peine 10% de la participation des entreprises du CAC 40. Hein. Plus de 40% de la participation, ce sont des fonds d'investissement, des fonds activistes, etc., qui gèrent les retraites par capitalisation des Américains, notamment. Bon, bref. Et donc, c'est ça la financiarisation. Et alors, comment on fait pour contrebalancer ça? On a des exemples à portée de main.
Mais lesquels?
Il n'y a pas besoin d'être très radical. L'Allemagne.
L'Allemagne, la cogestion.
En Allemagne. Dans les entreprises de plus de 2000 salariés, ça représente beaucoup de salariés, hein. Les salariés ont la moitié des voix au conseil de gouvernance qui nomme le directoire de l'entreprise, c'est-à-dire la direction de l'entreprise. Et dans les entreprises de taille intermédiaire, ils ont encore un tiers des voix. Même chose en Suède. En Suède, vous vous rendez compte, ça va jusqu'aux entreprises de 25 salariés. Dès que les entreprises font plus de 25 salariés, les salariés ont un tiers des voix.
Parce qu'il y a des syndicats forts et un dialogue social qui n'est pas du tout le même qu'en France.
C'est une habitude du compromis, on a une culture.
Ça n'exclut pas le conflit, hein, mais vous avez raison, il y a l'idée qu'il faut porter un intérêt. Il y a des conflits entre salariés, etc., entre salariés et patrons, mais il y a aussi un intérêt général de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, peut-être pour aller dans votre sens tout à l'heure, il y a effectivement les déclarations des patrons américains, bien sûr, c'est pour une bonne part de l'esbrouf, mais c'est intéressant que l'air du temps aille de ce sens-là, et donc après, le rôle de la puissance publique, c'est bien entendu, et là on aura un désaccord, c'est que je pense qu'il faut maintenant ne pas s'en tenir aux déclarations d'intention, il faut aller beaucoup plus loin dans la contrainte, c'est le rôle de la puissance publique, de contraindre, quand je dis contrainte, imposer qu'il y ait en France, par exemple, la moitié de voix aux salariés dans les conseils d'administration. Ça, seule une loi.
Je suis d'accord avec vous. Ce que je disais, c'était que la taxation des dividendes n'était pas la solution.
Mais moi, j'y suis favorable.
D'accord.
C'est dommage toujours qu'on s'enferme dans ce débat, effectivement, taxer les dividendes. On peut